Bonjour, je m'appelle Jean Rottner et j'ai eu plusieurs vies. Après ma période des apprentissages, je suis devenu médecin, patron d'un service d'urgence et d'un SAMU. J'étais maire et président de région. Aujourd'hui, je poursuis ma quatrième vie dans le privé en m'offrant une autre manière de vivre. À travers ce podcast, j'ai simplement souhaité vous amener à être curieux, parfois troublé, à l'écoute de celles et ceux qui, célèbres ou non, vivent intensément leur engagement au milieu de nous tous. Je suis persuadé qu'il y a une différence entre croiser quelqu'un et le rencontrer. La rencontre est vitale. Et celles et ceux que j'ai vraiment rencontrés étaient rares, précieux. Ils m'ont marqué, inspiré, ouvert au monde et j'ai donc décidé de vous les faire découvrir. L'important est donc là, parmi ces vraies rencontres, soyez les bienvenus.
Jean Rottner, les vraies rencontres, l'essentiel est là.
Je suis très très heureux aujourd'hui de vous faire découvrir Yann Herlacher, coureur automobile. Yann est deux fois champion du monde dans la catégorie WTCR, le championnat du monde des voitures de tourisme. Il n'est pas sous le feu de l'actualité comme les pilotes de F1 ou de rallye, mais ses supporters sont nombreux, ses followers se comptent par dizaines de milliers et le mérite n'attend pas la valeur de l'âge. Vous allez découvrir ce merveilleux jeune homme. Yann a accepté avec beaucoup de gentillesse de me recevoir chez lui entre deux étapes d'un championnat du monde exigeant et qui demande professionnalisme, précision et esprit d'équipe. Vous allez découvrir quelqu'un de brillant, quelqu'un d'attachant que je suis personnellement dans ses aventures sportives depuis de nombreuses années. J'apprécie également beaucoup sa famille. Vous allez voir qu'elle joue un rôle important et qu'elle n'est pas étrangère à ses choix et qu'à 27 ans, il mène sa carrière justement avec beaucoup, beaucoup de détermination. Bonjour Yann, ça va bien ?
Ça va très très bien et vous ?
Parfait, super. Je suis très heureux que vous arriviez à m'accueillir pendant quelques instants ici chez vous. Et j'ai une première question qui permet un peu de rentrer dans le vif du sujet, même si ce n'est pas votre domaine de prédilection. Mais quand même, finalement, le fair play, c'est quoi pour vous ?
Alors, dans un premier temps, je suis très honoré de pouvoir partager ce podcast avec vous. C'est vraiment un honneur que vous me faites là et je me réjouis vraiment de passer un bon moment avec des questions qui sont un peu aussi pour moi différentes du cercle du sport et du, plus spécifiquement du sport automobile. Donc je pense que ça va être très, très intéressant. Pour répondre à la question du fair play, je pense que le fair play, c'est un mot qui peut englober beaucoup de définitions, mais je pense que c'est savoir accepter dans un premier temps sa performance, être objectif sur ce qu'on sait faire et après, dans un deuxième temps, respecter le travail de ses adversaires, des gens qui entourent son adversaire aussi. Parce que souvent, un sportif, que ça soit, parce qu'il peut y avoir du fair play dans le sport, mais dans beaucoup d'autres compétitions qui ne sont pas forcément sportives. Mais voilà, c'est du respect mutuel envers des personnes qui se battent au sens de la compétition pour arriver à un même but.
Yann, c'est normal, vous parlez forcément du domaine sportif, du très haut niveau que vous connaissez, que vous fréquentez quotidiennement. Mais dans la vie, pour vous, le fair play, c'est quoi ?
Dans la vie, alors moi j'ai un gros problème avec l'injustice. J'aime bien que les choses soient justes et reconnues comme justes. Donc c'est sûr que, alors c'est peut-être le sport qui m'a amené à ça, mais je pense que le fair play c'est qu'il n'y ait pas trop de non-dits sur certains points et que les choses soient bien égales un peu à tous les points de vue pour tout le monde. Et ça je pense que ça définit assez le fair play, on va dire, dans la vie courante.
Mais alors, vous réagissez comment face à une injustice que vous constatez là, dans la vie, dans la rue, à la télé ? Comment est-ce que vous réagissez ? Avec votre trip, avec votre cœur, avec votre esprit, vous essayez d'aligner tout ça ? Comment ça fonctionne, le Yann Herlacher au quotidien ?
Alors, moi, je suis pas quelqu'un de très expressif. Je suis plus quelqu'un qui garde pour moi, qui digère les choses et qui fait pas forcément de vagues. J'aime bien rester... Je suis assez calme de tempérament, donc je garde les choses plutôt pour moi. C'est des choses qui me font réfléchir. Je réfléchis beaucoup, peut-être un peu trop sur certaines choses, mais c'est plus quelque chose que, si je vois une injustice, effectivement, c'est le genre de choses que je garderai pour moi, je l'oublierai pas. Je m'en rappellerai, mais je suis pas expressif et ça se verra pas forcément de l'extérieur.
Ouais, vous êtes plutôt introverti finalement.
On va dire ouais, introverti, oui, c'est plus ça. Ouais. C'est vraiment dans le sens où je veux pas faire de vagues. Je veux pas être celui qui fait du bruit pour rien ou même pour une bonne raison, mais vraiment être là au moment où il faut et éviter de faire des vagues.
Alors ce que vous dites, moi ça me rappelle un moment assez particulier puisque j'ai eu la chance de rouler avec vous. Vous m'avez emmené faire quelques tours de l'anneau du Rhin près de Mulhouse. Ça a été une expérience pour moi absolument fantastique parce qu'en plus on roulait de nuit. Et j'ai découvert à la fois le Yann que je connais, c'est-à-dire très chaleureux quand vous m'avez accueilli. Et tout d'un coup il y a eu une transformation. Il y a eu une transformation, on a retrouvé le pilote. Et le pilote, un peu introverti, complètement concentré sur ce qu'il allait faire, la manière dont il allait rouler, en plus avec la responsabilité d'avoir quelqu'un à côté de lui, ce qui fait qu'il ne roule pas seul. Pour vous, cette préparation, cette manière finalement de... Quand je viens vous chercher un peu sur le fair play, c'est aussi d'essayer de montrer à nos auditeurs que finalement, quand on est sportif de haut niveau, en plus dans le sport automobile, plus que jamais, on doit être complètement concentré sur effectivement sa mission de pilote, sa mission également de chef de meute entre guillemets par rapport à une équipe qui vous entoure où il faut bien être extrêmement précis sur les détails. Comment est-ce que vous arrivez facilement à passer finalement vers cet état d'hyper concentration?
Alors oui, et alors c'est quelque chose qui se fait aussi plus facilement avec l'expérience, mais pour résumer, on va dire vraiment le sport auto et le sport comme moi je le conçois, en deux mots, ça serait responsabilité et rigueur. Et rigueur, vraiment, c'est le mot qui pour moi résume un peu, c'est mon leitmotiv, on va dire rigueur. Parce que à partir du moment où on fait les choses sans rigueur et qu'on n'est pas rigoureux à 100% sur ce qu'on fait, on ne peut pas faire les choses bien. Dans le sport auto, c'est quand même un sport où on a des responsabilités. On a le travail, c'est un sport d'équipe, hein, mine de rien. On voit souvent que les pilotes à la télé dans leur voiture, mais avant que le pilote monte dans la voiture, il se passe beaucoup de choses dans les backstage, on va dire, que ce soit logistiquement, etc. Parce qu'on déplace une quarantaine de personnes, on déplace une voiture de course, du matériel. C'est beaucoup de travail et beaucoup d'organisation mise en place. Donc on a une responsabilité aussi de finir le travail sur la piste. C'est pas comme, on va dire, un athlète qui fait sa propre préparation et ensuite il doit gérer son corps à lui et c'est sa responsabilité aussi, mais c'est lui seul qui sera, on va dire, pénalisé si ça fonctionne pas. Alors que là, il y a toute une équipe qui a beaucoup travaillé dans l'ombre pour essayer de faire briller un pilote et une voiture et c'est à nous de finir le travail. Donc par la rigueur que, on va dire, je m'impose. C'est aussi par là que je montre un peu de respect à mon équipe qui travaille énormément et je ne peux pas me permettre d'arriver à n'importe quelle occasion où je monte dans une voiture de course sans être prêt à 300%.
Vous avez déjà fait des reproches par manque de rigueur, d'arriver à l'erreur?
Oui, ça m'est arrivé. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Pendant toutes mes années, au début, mes premières années en championnat du monde, il y avait beaucoup de découvertes pour moi. Donc, je me suis rendu compte du step qu'il fallait que je fasse en termes de préparation, de sacrifice aussi. Pas de sacrifice dans le sens où, dans le sens péjoratif du terme. Je suis très content de ma vie et pour rien au monde, je regrette ce que je suis en train de faire. Mais dans le sens où peut-être qu'il y a des choses que je sacrifiais pas assez au profit de ma préparation. Et effectivement, au fur et à mesure de voir l'évolution, de me dire, OK, là, il m'a manqué un peu de performance ici. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher cette extra performance qui m'a manqué ou cette régularité? Et là, après, on se rend compte que, au lieu de commencer à penser à ma semaine de course le lundi de la course, j'ai commencé à y songer le jeudi. Tous ces petits détails mis bout à bout font que les fois d'après, on se dit, OK, on devient rigoureux, plus rigoureux. Au bout d'un moment, c'est pas maladif, mais
pratiquement automatique.
C'est pratiquement automatique, mais au final, mon cerveau, il pense sport automobile toute la journée. Je pense qu'il n'y a pas une journée sur l'année où je ne suis pas en train de penser à un réglage, un setup, une façon de rouler, à me projeter sur un circuit. C'est mon quotidien et c'est aussi, ça fait partie des process pour réussir.
Alors ça, c'est très technique. On le comprend bien, mais à côté de ça, il y a aussi une préparation mentale, il y a une préparation physique. Alors, ça se prépare comment, pilote dans le sport automobile, du niveau qui est le vôtre, et je rappelle, deux fois champion du monde, c'est pas rien. D'un point de vue physique, dans l'entraînement, moi je sais que vous faites, par exemple, vous faites des sorties vélo complètement, complètement ouf, comme on dit. Je vois sur votre compte Instagram que vous avez fait comme ça, pour le plaisir, à Mulhouse-Lausanne, bon aller-retour. C'est quoi ? C'est une volonté ? C'est dans un programme qui est prévu avec des préparateurs physiques ?
Alors, c'est une volonté dans le sens... Bon,
vous faites plaisir.
Je suis assez passionné de cyclisme, ouais. Donc c'est quelque chose que j'aime bien passer du temps à faire du vélo. Après, comme vous l'avez évoqué, il y a deux aspects qui sont le mental et le physique. Au final, un sportif, quand on arrive à un certain niveau, on va dire au niveau mondial, on est 20 pilotes, on va dire les 20 meilleurs pilotes du monde dans cette catégorie-là. Ils sont tous capables, on est tous capables de freiner à un tel endroit, de passer un virage à une certaine vitesse. Donc si on va dire, on prend un exemple, on laisse une journée entière, tous les pilotes sur un circuit avec la même voiture, et on leur dit voilà, vous roulez pendant une journée, à la fin de la journée, tous les pilotes ils seront dans le même dixième. Parce qu'au final, ils sont tous capables, on est tous capables d'aller quasiment à la même vitesse. Là où les différences vont se faire, c'est quand bah, il va commencer à y avoir de la pression, quand on n'a pas toute la journée, quand c'est le moment, quand le pneu il est prêt, quand il y a un peu la pression, le rythme cardiaque qui augmente et qu'il ne faut pas freiner un mètre plus tôt, mais pas un mètre plus tard non plus, et qu'on commence à réfléchir, qu'on est en situation de course où on roule à 260 et qu'il y a deux voitures autour.
Ça s'appelle le stress.
C'est le stress. Et du coup, c'est pour ça que les différences, elles vont se faire et l'amplitude, elle sera beaucoup plus importante. Et c'est là qu'on va voir la différence entre les pilotes et comment ils se sont préparés. L'aspect physique, on se prépare surtout par rapport à la chaleur. Dans nos voitures, ce n'est pas des voitures où on prend des G comme en Formule 1, où ils prennent 5, 6, 7 G. Ça prend, on va dire, 3 G, 3 G et demi au maximum dans les virages et sur les freins.
C'est déjà pas mal. Hein.
Quand on n'a pas l'habitude, effectivement, c'est assez surprenant. Le corps, il encaisse des G et c'est une façon dont les organes à l'intérieur du corps, ils se déplacent, qui n'est pas habituel. Donc, c'est un peu perturbant, mais on s'y fait tellement avec le temps qu'on ne le sent presque plus au bout d'un certain moment. Le seul aspect physique dans nos voitures, c'est qu'il fait très chaud. Il fait entre 60 et 75 degrés, on va dire, pendant, alors c'est des courses de sprint, mais pendant une demi-heure de course. Mais ça veut dire qu'on est assis dans la voiture 10 minutes avant, 5 minutes après. Donc sur une amplitude de 45 minutes, on est entre 60 et 75 degrés. C'est des voitures qui sont forcément, il n'y a pas d'isolation parce que c'est du poids. On a les moteurs avant, donc ça chauffe tout l'habitacle. Donc il faut que le corps soit capable de résister à ces températures, de réfléchir, de rester lucide. Et l'autre aspect qui est le mental. Effectivement, le mental, c'est quelque chose que j'ai découvert assez tard et que aussi mon oncle qui fait aussi de la course automobile, je pense qu'on va en revenir un peu dessus tout à l'heure.
Mais l'oncle, c'est Yvan Muller.
Exactement.
Qui est lui aussi multiple champion du monde, qui a gagné 10 fois le trophée Andros, qui est un monument du sport automobile. Je crois qu'il vous a beaucoup aidé aussi et qui vous a un peu pris sous son aile. Ça a été un peu votre mentor sportif.
Ah, complètement, complètement. Alors, juste pour boucler la parenthèse du mental, on s'est rendu compte, et surtout lui aussi s'est rendu compte il y a quelques années, on s'est dit effectivement, on fait beaucoup de sport pour se préparer, on pense setup, etc. Mais l'aspect mental, au final, on n'y porte pas trop attention. Et ça fait maintenant 4 ans, depuis mon premier titre mondial, en fait, que je travaille avec on travaille tous les deux avec un mentaliste. Donc, il n'y a rien de, il n'y a pas de l'hypnose, il n'y a pas rien de tout ça. C'est juste quelqu'un qui nous aide à réfléchir, à se préparer mentalement, à se projeter dans des situations pour être capable d'encaisser mieux le stress, encaisser mieux les montées de stress et rester lucide au mieux possible. Et un sportif, ça a des doutes. Dans une carrière, il n'y a aucun sportif qui peut dire qu'il n'a pas de doutes, ou il le dit. Forcément, un sportif, ça a du mal à admettre des doutes, forcément, mais un sportif a forcément des doutes. À un moment de sa carrière, à un moment de sa saison, a des doutes. Et avoir quelqu'un d'extérieur qui est complètement objectif sur notre situation permet d'avoir une réflexion qui est un peu différente et de s'enlever certains doutes, de se rassurer sur certains points. Et ça, c'est quelque chose qui... pour moi, a complètement changé ma carrière et ma façon de gérer mes week-ends de compétition.
Oui, parce qu'on parle effectivement d'Yvan Muller, mais je pourrais rajouter quelqu'un qui compte quand même énormément, c'est votre maman, Cathy Muller. Cathy Muller qui a été aussi une des premières femmes vraiment à s'investir plus que jamais. Il y en a eu d'autres, Michel Mouton, et Cathy avait des responsabilités, je crois encore récemment, à la Fédération française de sport automobile pour permettre aux femmes de s'investir beaucoup plus dans la course automobile. Elle a commencé dans le karting, elle était en championnat d'Europe de Formule 3. Avant, elle avait gagné le volant Elf. Votre père est un sportif de haut niveau aussi, c'est Yves Herlacher. Moi, il m'a fait rêver, puisque quand il était au Racing Club de Strasbourg, il fait partie de ceux qui ont gagné là aussi le titre. Et il y a Yvan qui court toujours d'une manière ou d'une autre à vos côtés, parce qu'on parle là beaucoup de la course de super tourisme, mais vous faites quand même le trophée Andros aussi à côté de cela, et vous lancez encore récemment, on l'a vu là aussi, dans la Formule E aujourd'hui, la Formule électrique que vous testez. Tout ça, ça fait de vous un sportif complet, dans un environnement sportif qui a aussi de quoi vous rassurer.
Oui, complètement. Alors effectivement, c'est vrai que, alors chronologiquement, j'ai commencé à faire du foot quand j'étais jeune.
Alors, c'est un peu normal.
C'est un peu normal, de par papa, de par que notre génération, enfin une grosse, on va dire un gros panel de notre génération a fait du foot étant jeune. Tout le monde, quand on a 5-7 ans, on se met au foot, on fait tous du foot.
Bienvenue au club.
Exactement. Donc, j'ai vite constaté que j'étais pas bon, parce que quand j'ai commencé ma carrière de footballeur, j'étais attaquant, je me suis vite retrouvé au milieu, et peu de temps après, 2-3 matchs plus tard, j'étais défenseur, je me suis retrouvé au but, et après ça, je me suis trouvé sur le banc, et les fois d'après, ils m'ont dit, bon, si tu veux venir regarder les matchs, t'es le bienvenu, mais c'est pas la peine de... Voilà. Donc je faisais ça pas de façon professionnelle, c'était vraiment juste un amusement et j'avais pas l'esprit sportif étant jeune, même si c'est un peu paradoxal vu l'entourage que j'ai. Donc j'ai vite compris que le foot c'était pas pour moi, ça m'intéressait pas plus que ça et j'étais pas prêt à y dédier ma vie, on va dire. Et plus tard, alors forcément j'ai passé toutes les courses, j'ai pas eu la chance de voir ma maman en carrière, elle a dû arrêter sa carrière quand elle est tombée enceinte de moi. Elle a encore fait une course pour l'anecdote, elle a gagné une course en Ferrari Challenge en Italie étant enceinte de moi, ce qui était absolument interdit de faire ça, mais maintenant il y a prescription, on lui en voudra pas. Réellement, ma première victoire en sport automobile, c'était dans le ventre de ma maman.
C'est grâce à Cathy.
Exactement, j'étais même pas né. Donc, elle a dû arrêter effectivement sa carrière à cause de moi, parce que j'arrivais quoi. Et donc, j'ai pas eu la chance de l'avoir pilotée. J'ai eu forcément des éloges extraordinaires sur la carrière qu'elle a eue et elle reste une des femmes les plus emblématiques du sport automobile. Mais j'ai pu suivre effectivement du coup la carrière d'Yvan. J'étais petit et j'allais aux courses avec maman. On allait le voir rouler. Et c'est quelque chose que je regardais sans, en étant assez timide, sans dire que ça m'intéresse, que j'ai envie de me lancer là-dedans. Mais je regardais ça d'un œil plutôt passionné, on va dire. Et alors effectivement, j'ai soumis l'idée. J'ai dit, c'est peut-être quelque chose qui m'intéresserait quand même. Alors papa et maman, en tant que parents complètement responsables, ils ont dit, ouais, on verra. Mais d'abord les études. Sauf qu'à un moment, quand on se rapproche des 15-16 ans, on se dit bien que si on ne commence pas maintenant, la chance, le train, il va passer. Et si on ne le prend pas, on le reprendra pas en chemin, quoi. Donc c'est là qu'Yvan, il m'a motivé en me disant, bon, si tu as 14 de moyenne, donc j'étais à cette époque-là en 3e, mes résultats scolaires étaient un peu en berne. Donc il m'a dit, écoute, si tu as 14 de moyenne à la fin du semestre, je t'achète un kart, on va faire quelques journées de kart. Donc forcément, ça m'a motivé. Mes notes, elles sont remontées en flèche. J'ai dit, bon, allez, on essaye. On a fait quelques journées de kart sans faire une course. J'ai jamais fait une course de kart de ma vie. Je suis arrivé à mes 16 ans. Donc c'est l'âge légal en France pour avoir une licence pour rouler sur circuit. Et là, il m'a emmené faire une course en Espagne. Ça s'est plutôt bien passé, assez étonnamment, dans le sens où j'ai jamais vraiment roulé. J'ai pas fait de séance d'essai, rien auparavant. Mais voilà, peut-être du mimétisme, peut-être comme on dit, d'avoir ça dans le sang, de par maman, de par la famille, dans les gènes, exactement. Et du coup, on s'est dit, bon, on en fait une deuxième, ça s'est bien passé. Alors la condition était toujours scolairement, il fallait aller jusqu'au bac, réussir son bac correctement pour avoir un plan B. Et on s'est dit, voilà, on se laisse quelques années pour essayer de passer professionnel. Et à ma quatrième saison, j'ai signé mon premier contrat en championnat du monde. Et c'est là que toute ma préparation, je l'ai fait avec Yvan, qui m'a éduqué au sport automobile. C'est vraiment le mot. Un peu à la dure. On est une famille assez on est assez rigoureux. Et je pense que sans cette rigueur que ma maman elle a, que Yvan il a, j'en serais pas là aujourd'hui. Et il a su me on va dire, m'éduquer à la dure pour le sport automobile. Et c'est ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui ou que j'ai réussi à être champion aussitôt. Si je n'avais pas eu son aide, je ne serais sûrement pas encore en carrière aujourd'hui et je n'aurais pas eu, de titres mondiaux à l'heure actuelle. Donc, c'était... Voilà, pour moi, c'était sans. S'il n'avait pas été là, j'aurais pas pu. Je serais pas là en train de discuter avec vous aujourd'hui, comme toute ma famille qui m'a énormément soutenu et qui.
Oui, parce qu'à côté de ça, on parle beaucoup des sportifs, mais il y a aussi une tante qui est une chef d'entreprise brillante. Vous avez une sœur que vous aimez beaucoup et que vous protégez parce que c'est votre petite sœur qui réussit aussi de manière très brillante dans la vie. Donc, c'est plutôt un environnement familial qui pousse à la rigueur, au progrès, à l'excellence, à la nécessité de se surpasser. Tout ça, ça contribue quand même aussi à vous permettre d'avoir un quotidien de vainqueur et une ambition que vous portez positivement.
Exactement, c'est exactement, vous avez résumé toute la situation. J'ai eu la chance dans ma famille d'être inspiré par tous les membres de ma famille ont été très inspirants pour moi, dans le sens où j'ai pu les regarder évoluer, j'ai pu prendre un modèle de chacun et des points pour me faire progresser, que ce soit ma marraine, que ce soit ma grand-mère, qui est une femme très très forte de caractère, qui voilà, c'est quelqu'un qui m'a aussi beaucoup appris. Mon grand-père, qui initialement, historiquement, était le premier à faire du sport automobile, il faisait de la course de côte à l'époque, et c'est de là qu'il a mis ma maman dans un kart, puis Yvan, et c'est comme ça que c'est parti. Ma petite sœur, on a grandi ensemble, on est très très famille, dans le sens où on est parti assez tard. J'avais 18 ans quand je suis parti de la maison. Ma sœur, elle est aussi très, très rattachée. C'est un peu l'âge normal, ouais. Mais ma sœur est aussi très, très famille, très rattachée. On habite pas loin l'un de l'autre. Donc voilà, on se voit très, très souvent. C'est ma première fan, on va dire. Alors, en conduite, on va rien dire. On sait que voilà, les jantes elles seront cassées au bout de quelques kilomètres. Ça, c'est un fait. Mais par contre, elle s'y connaît énormément en sport auto. Elle regarde toutes les courses. Elle suit ça de très près. Donc, pour résumer, j'ai eu la chance d'être dans une famille énormément inspirante et qui a su m'élever à un niveau auquel je peux évoluer au mondial, quoi.
Bon, je ne donnerai surtout pas les références de ce podcast à Julie pour qu'elle ne l'écoute pas, mais je me ferai
pour les gens.
Merci en tout cas. On va juste un peu changer de sujet pour bien expliquer quand même ce que c'est aujourd'hui. Le WTCR, parce que ce sont des courses très particulières. Là, vous finissez aujourd'hui l'étape européenne de ce championnat. Vous allez partir en Amérique du Sud très prochainement. Ensuite, ce sera l'Océanie, l'Australie, l'Asie. Donc, c'est aussi exigeant en quelques semaines. C'est des décalages horaires, c'est des équipes qui doivent s'habituer. C'est des nouveaux adversaires aussi, qui sont coriaces. On a l'habitude de la Formule 1, on a l'habitude du rallye. Comment se passe une course au WTCR ?
Alors, le format des courses, en gros, c'est on a deux courses dans le week-end, deux courses de 30 minutes. C'est environ 70 km, grosso modo.
C'est un sprint, ce que vous disiez.
C'est du sprint. Voilà. C'est du 100% sprint. Il n'y a pas d'arrêt au stand comme en Formule 1. Il n'y a pas de refuel.
C'est le 100 mètres de l'athlétisme.
Exactement. C'est du pur sprint. Le départ est super important parce qu'encore une fois, il n'y a pas beaucoup de tours. Ce n'est pas une course d'endurance où on sait que sur un relais, on peut essayer de gagner des places. Non, là, c'est à partir du feu vert jusqu'à l'arrivée. Il n'y a pas un seul instant où il faut se relâcher. Avant ça, donc, dans la chronologie du week-end, on arrive sur un week-end de course. C'est comme ça partout dans le monde. On fait deux séances d'essai libre de 30 ou 45 minutes, ça dépend des circuits. Et ensuite, on fait une séance de qualification. Donc la qualification, c'est assez simple. À la fin de la qualification, c'est comme en Formule 1, il y a un ordre. Et dans cet ordre-là, c'est l'ordre de la fin de la qualification, c'est l'ordre dans lequel on partira pour la première des deux courses du week-end. La deuxième des deux courses du week-end, il y a une petite particularité, on inverse les 10 premiers. Donc celui-là qui a fait 10e, qui s'est qualifié à la 10e place, il va partir en tête de la course. Donc c'est toujours une course qui est assez intéressante parce qu'il y a souvent des différences de rythme dans la chronologie des 10 premiers et ça crée des opportunités de dépassement et beaucoup de... Voilà, c'est un sport aussi, à la différence de la Formule 1, où il y a beaucoup de contacts. C'est des voitures à porte, donc on a les roues qui sont couvertes. Donc c'est possible d'avoir des contacts. C'est autorisé. Dans le sens où on ne fait pas perdre une place à un pilote, on ne le fait pas se décaler de sa trajectoire. Voilà, on a le droit d'avoir quelques petits contacts et c'est ce qui rend un peu les courses souvent assez spectaculaires parce que des fois les petits contacts se transforment en un peu plus gros et puis ça crée un peu des accidents et au final les spectateurs comme les téléspectateurs, ils apprécient plutôt le spectacle. Et après, le championnat, comme vous l'avez dit, on fait quatre courses en Europe. On part en Amérique du Sud ensuite. Là, c'est les deux courses qui nous attendent. Australie, deux courses. Et on finit à Macao, à côté de Hong Kong, sur un circuit en ville pour la finale du championnat.
Et il y a aussi parfois le fait d'avoir plus de poids à certains moments.
Il y a aussi cette particularité de poids. On a, alors, il y a deux pénalités pour les voitures, on va dire, du championnat. Il y a la première qui s'appelle la balance de performance, c'est-à-dire qu'ils essayent de niveler au maximum les voitures. Il y a des voitures de différentes marques. Moi, je roule sur une voiture de la marque Link & Co, qui appartient au groupe Geely, qui a racheté Volvo récemment, Aston Martin, Lotus. C'est un grand groupe chinois qui rachète beaucoup de marques un peu mondialement. Il y a aussi Honda, il y a Hyundai, il y a Audi. Et toutes ces voitures-là, on a à chaque fois un moteur de la marque, un châssis fait et construit par la marque. Et pour essayer de niveler un maximum les performances, pour essayer de faire pas comme en Formule 1 en ce moment, où il y a un peu un constructeur qui domine et on sait que ça va juste se battre pour la deuxième.
Il y a un gars tout seul devant.
Il y a un gars tout seul. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver dans nos championnats, dans le sens où, par exemple, nous, on a une très très bonne voiture. Alors certes, d'avoir de la bonne performance est un peu puni, parce qu'on nous enlève un peu de puissance, on nous rajoute du poids, on monte la voiture, la hauteur de caisse est remontée, donc ça enlève un peu d'adhérence. Et en plus de ça, on a le poids, de la pénalité de poids, comme on l'appelle. Sur le classement de la qualification, en gros, ils découpent le top 10 en 4 tranches. La première tranche prend 60 kg, 40 kg, 20 et 10 kg. Donc ça, c'est un découpage comme ça pour l'événement qui suit. Et ça permet encore une fois vraiment de niveler un maximum, qu'on n'arrive pas à la dernière course du championnat avec un pilote qui a beaucoup d'avance et que voilà, il y a un maximum de suspense jusqu'au bout.
Et alors aujourd'hui, dans ce championnat, vous êtes combienième?
Là, on est en tête du championnat. On est leader du championnat depuis la Hongrie qui s'est déroulée fin juin. Donc on a fait 4 courses, 4 week-ends de course sur 10. C'est encore très tôt dans la saison. C'est toujours bien d'être en tête assez tôt. Je suis pas du genre à avoir la psychologie du chasseur, du chassé, etc. L'important, c'est de maximiser le nombre de points qu'on peut marquer tous les week-ends. Et on l'a fait plutôt correctement depuis le début de l'année. Donc voilà, on arrive là, on est arrivé à la pause estivale en tête du championnat. C'est toujours bon à prendre.
Et là, vous allez affronter des pilotes qui n'étaient pas dans la tranche européenne et qui vont se rajouter au championnat. C'est bien ça.
C'est ça, exactement.
C'est aussi une particularité.
Ça, c'est une particularité. En fait, dans le championnat, alors il y a le mondial, le championnat, on va dire, mondial de Touring Car, où on est une douzaine de pilotes qui font toute la tournée mondiale. Et en plus de nous, il y a les championnats continentaux qui se rajoutent. Il y a un championnat, par exemple, en Europe, c'est le championnat d'Europe de Touring Car, où il y a environ 15-16 pilotes. Donc nous, on s'est rajouté à eux pour la tournée européenne. Là, on va en Amérique du Sud. On rejoint le championnat de Touring Car sud-américain, où il y a les meilleurs pilotes de Touring Car de Sud-Amérique. Et la particularité, pour le coup, c'est qu'en Europe, on connaît tous les circuits par cœur. À force d'avoir fait pendant l'hiver des essais, etc., on connaît tous les circuits par cœur. Là, on va aller en Amérique du Sud, en Uruguay, sur un circuit qu'on n'est jamais allé faire de tests, parce que quand on fait des tests, on reste quand même en Europe. Et là, pour le coup, les 20-25 pilotes sud-américains qui sont là-bas, eux, ils ont testé pendant tout l'hiver, ils connaissent le circuit, ils ont déjà fait des dizaines de courses dessus.
Vous êtes attendu.
On est attendu au tournant. Ils sont préparés, ils connaissent mieux le terrain. Et c'est sûr que pour eux, de pouvoir battre des pilotes du mondial, c'est quand même un point sur le palmarès. Donc ça va faire des courses assez excitantes. Ouais.
À côté du WTCR, vous participez aussi chaque année au Trophée Andros. Autre exercice, autre motorisation. Ça a été un trophée, c'est un trophée là aussi absolument fantastique qui amène à des dizaines et des dizaines de milliers de spectateurs. Comment vous le vivez, ce Trophée Andros?
Alors, j'ai participé maintenant trois ou quatre fois, j'ai un petit doute, je crois trois fois. Au Trophée Andros, effectivement, c'est venu, l'idée, elle est venue un peu d'Yvan, dans le sens où il m'a dit que ça serait quelque chose de bien par rapport à mon pilotage.
Yvan Muller, votre oncle, toujours.
Yvan Muller, mon oncle, qui l'a gagné 10 fois, qui est le roi de la glace. Il l'a gagné 10 fois, il n'y a personne qui est...
Mais ça se pilote, la glace, où on a l'impression que vous ne commandez rien et finalement, vous arrivez quand même au bout.
Ah ouais, alors il y a un peu d'improvisation. Hein. Par rapport au circuit, c'est complètement l'inverse. En circuit, on est très précis, on freine au mètre près, on connaît la piste par cœur. Là, quand on arrive sur des circuits de glace, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer le grip de la piste, l'adhérence qu'il y a, parce que quand on va à l'Alpe d'Huez, enfin à Val Thorens par exemple, on est à 2000 mètres d'altitude, La glace, elle était au soleil, pas au soleil. Elle est un peu plus mouillée, plus gelée le matin, le soir. L'adhérence n'est pas la même. On fait très peu de tours parce qu'on est équipé de pneus cloutés forcément pour avoir un minimum d'adhérence. Donc la glace, elle se gratte très vite. On ne peut pas faire beaucoup de tours parce que sinon le circuit disparaîtrait en l'espace d'une demi-heure. Et c'est ce qui fait la difficulté de l'Andros, c'est l'adaptation. Il faut savoir s'adapter aux conditions, à ces niveaux de clous, au niveau d'adhérence de la piste qui change tour après tour. Et c'est un très très bon exercice pour aussi ma saison estivale, parce que quand on s'habitue pendant tout l'hiver à rouler, où on a très peu de roulage, c'est des conditions très très compliquées. Quand on arrive sur circuit, tout paraît beaucoup plus simple. Donc c'était aussi une idée de faire ce championnat pour déjà rester actif l'hiver. Ça, c'est un gros point important en tant que sportif, parce que la saison, on va dire, une saison de WTCR commence, on va dire, allez, fin mai jusqu'à fin novembre. Mais il reste quand même décembre, janvier, février, mars, avril, où on est inactif entre guillemets. Alors on fait des essais de pré-saison, mais il n'y a pas le stress de la compétition, etc. Et ça permet de début décembre jusqu'à fin janvier, on a des courses tous les week-ends.
Aujourd'hui, c'est la Formule E, ça c'est nouveau ça, c'est tout récent.
Alors ça c'est tout récent, ça fait un an. Ça fait un an maintenant que je fais ça avec DS, DS Automobile, qui est une marque du groupe Stellantis.
Qu'on connaît bien,
effectivement. Ça fait, c'est quelque chose aussi qui, c'est une autre corde à mon arc. Un pilote aujourd'hui doit savoir être le plus diversifié possible, parce que c'est important. Les championnats, c'est un peu, il y a toujours des hauts, des bas, et il faut toujours être un peu le plus diversifié possible pour avoir le plus d'opportunités. Et ça fait un an maintenant que je bosse avec eux. J'ai commencé par faire du simulateur pour eux, pour remplacer leur pilote de réserve, et ils étaient assez contents du travail. Donc j'ai fait quasiment une année de préparation avec eux pour préparer toutes les courses en simulateur en amont des week-ends. Et ensuite, voilà, ils m'ont fait tester la voiture. J'étais il y a 10 jours à Rome. Ils organisaient une séance pour les nouveaux pilotes, pour les rookies. Donc sur un circuit en ville, c'était la première
rookie,
fois.
Rookie, qu'est-ce que c'est ça?
Alors un rookie, c'est un débutant, on va dire quelqu'un qui n'a jamais fait de compétition dans une dite discipline. Et c'était mon cas à Rome. Et j'avais même jamais roulé du tout en monoplace, donc c'était une première pour moi. Et puis ça s'est plutôt bien passé, donc on verra ce que le futur nous propose. Mais c'était une bonne pige.
Mais vous n'êtes pas trop grand, par exemple, pour entrer dans l'habitacle d'une voiture de ce type-là?
Alors, ça va.
C'est une difficulté ou pas?
C'est pas une difficulté. C'est plus le
non,
poids.
Je dis ça parce que il est grand, il est fort, enfin, il est balèze. Vous le verrez en photo sur les réseaux sociaux du podcast. Mais c'est vrai que c'est pas une petite taille comme les Formule 1, comme les pilotes de Formule 1.
C'est vrai. Après, on a des pilotes en F1 qui sont quand même assez grands. On va dire le facteur limitant, c'est plus le poids.
C'est le poids.
C'est vraiment le poids où il faut qu'on respecte un certain poids, même en championnat de touring car. On va dire que si on arrive à être le plus léger possible, ça laisse plus de poids aux ingénieurs pour mettre du poids où eux, ils ont envie par rapport à leurs calculs dans la voiture. Donc c'est toujours une histoire de poids. La taille et le poids, ça va en général assez ensemble, mais c'est plus un combat pour le poids que pour la taille.
Yann, le sport automobile, parfois, il est pris à partie par un certain nombre de personnes qui contestent son utilité, sa nécessité, avec un changement climatique aujourd'hui qui impose des attitudes les plus vertueuses possibles. Vous êtes jeune. On sait l'importance de ce sujet aux yeux des jeunes et leur responsabilité d'ailleurs, parce qu'ils ont aussi à amener à la fois des idées. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là, à ces groupes de pression? Est-ce que d'ailleurs, parfois, vous êtes attaqué sur les réseaux sociaux ou sur les circuits par des gens qui vous prennent un peu à partie sur ce sujet?
Alors, c'est vrai que c'est un sujet assez sensible. C'est peut-être le sujet sensible, on va dire, du moment par rapport à notre sport. Effectivement, il y a toujours des gens qui critiquent, il y a des gens qui râlent sur le fait que c'est complètement inutile, etc. Il faut quand même savoir que le taux d'émission, on va dire, d'une voiture de course ou même d'un plateau entier, pendant un week-end de course, on doit faire, allez, on va dire, 150 km chacun. Allez, 200 km avec les essais libres, 200 km chacun. C'est vraiment, ça représente très très peu en termes d'émissions. Certes, il y a les équipes qui doivent se déplacer sur les week-ends.
Il faut amener les voitures, c'est les camions, c'est...
Je suis complètement d'accord avec ça, mais on va dire que si on compare un championnat, on peut faire tout notre championnat en termes d'émissions, ça couvre toujours pas le Tour de France.
Votre équipe, elle fait un bilan carbone, par exemple ?
Complètement, c'est obligatoire. Le championnat est obligé de respecter des normes d'émissions sur une totalité de la saison. Donc voilà, on ne fait pas les trajets en avion. Enfin, le personnel fait les trajets en avion. Le matériel, exprès, le calendrier est dessiné pour qu'il n'y ait pas d'avion à faire. On fait tout en bateau, c'est chargé dans des conteneurs. Et c'est pour ça qu'on a aussi des longues pauses, parce que voilà, il faut le temps que le matériel parte d'Europe pour aller en Amérique du Sud. Donc déjà, rien que par là, on essaye de limiter. Mais après, encore une fois, on n'arrivera pas à contenter tout le monde, même, on va dire, la formule électrique. C'est des voitures électriques qui roulent sur le circuit, donc il n'y a pas d'émission au moment où la voiture est allumée, mais il faut quand même déplacer tout le monde. Donc, la formule électrique, on va dire que c'est, par exemple, une discipline qui pour promouvoir la compétition électrique à travers le monde, mais c'est pas en elle-même, elle n'est pas éco-responsable au point d'être à zéro émission.
Inversement, mais on peut dire aussi que grâce au sport automobile de haut niveau, il y a de la recherche, il y a du développement, il y a de l'innovation, et petit à petit, ça rejaillit là aussi sur la production en série de la voiture du quotidien de monsieur et de madame tout le monde.
Exactement, c'est à la base le concept et le but du sport automobile, c'est ça, c'est de tester des trucs, des éléments dans des conditions extrêmes, entre guillemets, de chaleur, de compression, de résistance, pour pouvoir les appliquer après sur de la série. Et aujourd'hui, on teste des carburants qui tendent vers le zéro émission aussi, des carburants complètement bio, des carburants qu'on appelle zéro émission. Et ça, c'est ce qui roule déjà dans beaucoup de championnats. C'est cher à développer. Les constructeurs, ils travaillent là-dessus pour essayer justement de pouvoir faire rouler des voitures avec des hautes performances, avec des carburants zéro émission. Et c'est ce qu'on va essayer d'avoir sur le marché, on va dire, de monsieur tout le monde dans les années à venir. Et c'est pour ça que ça passe par le sport automobile. Et les détraqueurs, alors il y a des détraqueurs dans les deux sens, dans le sens où il y a plein de gens, quand ils voient des voitures électriques rouler sur circuit, ils ne veulent pas venir parce que le pur passionné a besoin de sentir un peu l'odeur des moteurs, d'entendre les bruits des moteurs, et ça donne un peu de la vie à la chose, ce que je peux complètement comprendre. En tant que pilote, pour être honnête, on nous donne une voiture performante qui va vite. À un moment, on est là pour aller vite avec quatre roues.
C'est de la performance.
Exactement, c'est de la pure performance. Voilà. Ça n'a pas de moteur, etc. Nous, à un moment, on est juste là pour gagner une compétition et finir un tour le plus vite que tous les autres. Donc, que ce soit électrique, thermique ou hybride ou n'importe, c'est pas trop important pour nous.
C'est important, effectivement, c'est un sujet majeur. Est-ce que cette thématique du développement durable, qui est une thématique importante, est-ce que vous seriez prêt, vous, par exemple, comme pilote, comme sportif de haut niveau, à se dire « il faut que je m'engage plus là-dedans et que j'en sois quelque part le porte-parole pour bien faire comprendre les messages que vous venez de donner ?»
Alors, je pense que ça peut être important, parce qu'au final, on va dire dans la compétition, on est un peu la vitrine de ce qu'on représente, donc ça peut être important. Moi, je suis prêt à faire beaucoup de choses dans la mesure du raisonnable et du fait que ça soit, on va dire, juste, comme on en disait au début.
La justice, on y revient, c'est le thème de départ.
C'est le thème de départ, qu'il y ait de la justice et du fair play, on va dire, général.
Et de la compréhension de l'écoute mutuelle.
C'est ça, et pas d'hypocrisie. Parce que y a souvent des gens qui se plaignent des émissions de certaines choses, mais qui oublient un peu qu'au quotidien, parce que je veux bien les gens qui me disent « ok, ouais, ça pollue, vous allez à l'autre bout du monde pour faire des courses, y a pas besoin d'aller aussi loin, mais là, ça, ton t-shirt, tu l'as commandé sur internet, il est pas venu, c'est pas un livreur sur un Vélib électrique qui l'a emmené. » Donc il y a un moment, juste il faut deux poids, deux mesures, toutes les commandes sur les grandes plateformes qui sont livrées le lendemain parce qu'on veut les choses vite, etc. Si on se plaint qu'il y a des choses qui sont pas assez écologiques, il faut que chacun prenne ses mesures aussi et pas vouloir les choses direct au lendemain, qu'on commande des choses à l'autre bout du monde et on veut les avoir en deux jours, parce qu'il n'y a rien d'écologique là-dedans. Et on en revient au thème de la justice où je suis d'accord, mais il faut que chacun balaye devant sa porte dans un premier temps, quoi.
Vous n'avez pas encore 30 ans, mais est-ce que vous êtes prêt à vous engager, peut-être dans les années qui viennent, avec un temps et une organisation de vie différente, sur des causes qui vous paraîtraient justement comme devant être soutenues, parce que vous êtes un sportif de haut niveau, vous êtes reconnu, vous avez des supporters, vous avez une voix qui pourrait porter à un moment donné. Est-ce qu'il y a des sujets comme ça qui vous passionnent ?
Alors, pour être honnête, là, vraiment, pour être tout à fait honnête, je suis assez ouvert et je suis assez curieux de plein de choses. Je m'informe beaucoup, j'ai beaucoup le temps de lire dans les aéroports, etc., plein des choses diverses et variées. Mais vraiment, mon énergie tout de suite est vraiment focus et concentrée sur être le plus performant à chaque minute et chaque jour qui existe sur cette planète. Donc, je ne me suis pas vraiment projeté à ce point-là. Mais c'est quelque chose qui, pourquoi pas, dans le sens où on voit des choses, on voit un peu les deux côtés, et ça pourrait être quelque chose d'intéressant par la suite. Mais là, tout de suite, je suis vraiment, vraiment focus sur être le plus performant possible. Mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait être tout à fait envisageable.
Alors à la suite, justement, vous l'envisagez comment ? Parce qu'on parle de votre oncle, on a décrit toute l'influence qu'il a, mais il court toujours. Vous voyez avoir la même longévité que lui ou à un moment donné se dire eh bien, je ferais peut-être autre chose de ma vie ?
Là, franchement, tout de suite, non, je vois pas ma vie autrement. J'ai besoin de la compétition. J'ai pas le sentiment d'avoir accompli ce que j'avais envie ou prévu d'accomplir à la base, donc pour l'instant. Même si je n'étais pas venu avec un objectif particulier, à part être la meilleure version de moi-même.
C'est un bel objectif quand même.
C'est un très bel objectif, mais voilà, pour moi, j'ai encore plein de choses à faire dans le sport automobile. Et avoir une carrière longue comme l'a eu Yvan, c'est très rare aujourd'hui. Et l'objectif, c'est aussi de se dire que si on arrive à avoir une carrière longue comme ça, c'est qu'on a su s'adapter, qu'on a su être bon, qu'on a su évoluer avec les technologies. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse dans le sens où je vais me dire, voilà, j'ai eu une carrière longue, j'ai su être régulier au cours de ces années, être toujours prêt. Et je pense que ma vie, sans me dédier au sport automobile, sans vraiment me dire, voilà, parce que c'est quand même quelque chose qui nous anime tous les matins. Quand on se lève, on se dit comment est-ce que je peux trouver de la performance ? Comment est-ce que je peux être un meilleur pilote ? Et ça, c'est... Voilà, c'est tous les jours. Et sans ça, je suis pas sûr que je serais très heureux. Donc là, tout de suite, vraiment, non, je suis vraiment concentré à avoir une carrière le plus long possible.
Ouais, c'est déjà un très très bel objectif. Mais pour vous, le rêve absolu, c'est quoi ? La question n'est pas simple.
C'est une question.
Je la pose un peu à tous mes invités et chacun prend le temps de réfléchir.
Moi, je rêve pas trop pour être honnête. Je suis assez terre à terre et j'aime pas trop spéculer sur des choses ou me projeter sur des choses qui peuvent pas arriver. Moi, vraiment, j'ai pas de rêve, mais effectivement, on va dire mes objectifs, c'est juste d'arriver sur des circuits et d'être le meilleur à chaque fois, être à 300%.
Je crois que c'est un beau rêve, ça. Quand vous dites « j'ai pas de rêve », c'est « j'ai pas de grands rêves
hein. ».
Des rêves qui soient inatteignables, mais c'est au contraire, c'est des rêves très concrets de performance, de rigueur, d'excellence.
Alors, si je pouvais vraiment avoir un rêve, vraiment un souhait, un souhait, on va dire, plus qu'un rêve, ça serait vraiment d'avoir la, on va dire, le mode d'emploi exact pour être... À son apogée de sa performance personnelle, de tirer
le meilleur de vous-même,
le meilleur, le dernier pourcentage de nous-mêmes à tout point de vue, que ce soit physique, mental, toutes nos capacités. Si je pouvais avoir le mode d'emploi de ça, là je serais heureux.
Vous êtes preneur.
Ah, je suis preneur, oui.
Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui a envie de se lancer dans une carrière comme la vôtre ou une carrière de sportif de haut niveau ? Quels sont les conseils que vous lui donneriez ?
Alors, le premier conseil, c'est souvent les jeunes, on les entend dire, et moi j'en ai fait partie, de dire ouais, je suis prêt à tout pour y arriver. Mais être prêt à tout, ça veut rien dire en fait. Et je pense que quand on se rend compte de l'implication qu'il faut pour, et de la rigueur qu'il faut pour faire quelque chose correctement, c'est déjà un bon step. Et le conseil numéro un que je peux leur donner, c'est vraiment de tomber sur quelqu'un aussi d'expérience, parce que pour moi c'est important, et étant jeune, on ne peut pas se rendre compte par nous-mêmes de la rigueur qu'on a besoin de mettre dans les choses pour les faire bien. Ça peut être à n'importe quel niveau, hein. Si j'avais appliqué la rigueur aujourd'hui que j'applique dans le sport auto à l'école, j'aurais pas eu les mêmes résultats. Donc c'est vraiment, ça s'applique vraiment partout, et je pense que c'est juste voilà, se concentrer sur ce qu'on fait. Et quand on fait quelque chose, il faut le faire correctement et se donner les moyens de le faire à 100%. Et je pense qu'à partir de là, déjà, ça, c'est le début d'une bonne réussite.
Vous êtes la preuve aussi que, malgré peut-être des résultats scolaires qui étaient moyens, bien, on a largement la possibilité de réussir dans la vie. Je crois que c'est un bel exemple.
Alors, Ouais. Il faut que je reste politiquement correct parce que je suis un peu dans le sens où l'école, moi, ça m'a appris, on va dire, ça m'a appris à travailler peut-être, mais ça m'a pas appris un travail. Dans le sens où je suis sorti de l'école, j'ai eu mon bac, etc. Mais j'ai fait des choses que j'avais pas forcément envie parce qu'il fallait le faire et parce que pour les résultats, pour passer à l'étape d'après, on va dire. Mais j'ai quand même un petit sentiment d'avoir perdu un peu mon temps à certains endroits et il y a peut-être des choses que j'aurais voulu apprendre à la place de certaines autres qui m'auraient été plus utiles aujourd'hui.
Par exemple ?
Par exemple, on va dire déjà un peu plus d'autonomie et d'avoir des responsabilités un peu progressives parce qu'effectivement, on sort de l'école, on a zéro responsabilité. La seule responsabilité qu'on a, c'est de se dire « Ok, bah, il faut apprendre une leçon qu'on nous a dit laquelle apprendre. »
J'ai fait mes devoirs ou pas ?
C'est ça. C'est la seule et unique responsabilité. C'est même plus de la réflexion.
Ce qui est souvent contesté dans le système scolaire français qui, effectivement, ne donne pas forcément d'autonomie aux jeunes et qui ne valorise pas ou qui ne valorise que la réussite, mais qui n'explique pas pourquoi on a à un moment donné un échec ou des difficultés. Et il n'y a pas forcément d'accompagnement des jeunes à ce moment-là.
La meilleure école pour moi, à l'heure actuelle, ça a été la compétition. Parce que on fait des erreurs, on a un mauvais résultat. C'est pas ok, on est noté parce qu'on a un mauvais résultat, mais il y a personne qui va nous dire quoi apprendre pour la fois d'après. Il faut se débrouiller tout seul.
Mais on sait qu'on a un mauvais résultat et qu'on a envie de se battre pour autre chose, pour avoir un meilleur résultat.
Et surtout, on sait que on a vraiment envie de ça. Et si on n'y arrive pas à trouver la solution, la carrière va s'arrêter et le sport automobile, on n'en fera plus de notre vie. Donc il y a un moment, la solution, faut la trouver vite. Il y a de la pression. Et pour moi, la compétition, ça a été la meilleure école de ma vie. Après, je ne renie pas du tout l'école parce qu'il y a des gens, moi j'ai eu des collègues à l'école qui savaient exactement ce qu'ils voulaient et ils étaient très épanouis quand ils apprenaient des maths ou de la science parce qu'ils savaient qu'ils allaient s'y retrouver plus tard. Mais je pense qu'il y a plein de cas où j'aurais préféré être en entreprise et voir des cas concrets parce que je suis plus quelqu'un qui aime bien le concret et faire des choses, comprendre la vie en entreprise, comprendre des choses plus manuelles. Après, encore une fois, je pense que c'est propre à chacun, mais je n'ai pas, disons, rentabilisé mon temps à l'école. Mais je ne regrette rien et je ne reproche rien. C'est facile de critiquer le système ou quoi. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une école qui m'a beaucoup aidé à cumuler l'école et la compétition. Et j'en suis très reconnaissant parce que sans ça, ça aurait été compliqué de faire les deux. Et ils ont été capables de... On avait des bacs blancs, donc ils me laissaient y aller pendant que les gens étaient collés le samedi. J'allais refaire mes sujets de bac blanc en retard, etc. Ils étaient vraiment, vraiment très, très cool avec ça. Donc c'était vraiment super. C'est juste que voilà, y a des choses où... J'ai appris une méthode de travail, mais j'ai pas vraiment appris un vrai travail, quoi.
Vous êtes aujourd'hui dans une équipe internationale, vous fréquentez là aussi le monde entier. Quel est le regard que portent aujourd'hui les gens sur la France ?
Cette question est compliquée. Hein. C'est, moi, la France, je suis chauvin. Mais alors, c'est assez mitigé. Il y a un peu de tout, mais comme on en entend de tous les pays, je pense qu'on n'est pas forcément les number one sur la liste des plus sympas et des plus fréquentables, on va dire. On n'est pas les plus sympathiques, on va dire, aux yeux des autres.
Mais quand on vous voit, vous êtes un pilote Frenchie, vous avez les yeux qui pétillent, vous avez le sourire jusque derrière les oreilles. Quand même, les gens considèrent que vous êtes un gars super sympa, non ?
Ouais, alors après, je pense...
Yann Erlaché, c'est la relation individuelle, mais ce regard que portent les gens sur la France en général, c'est quoi aujourd'hui ?
Je pense que c'est un peu que le français, il pense que la France, c'est vraiment le centre du monde et les étrangers, ils ont un petit peu du mal avec ça. Ils pensent que les Français, ils ne sont pas très ouverts d'esprit à l'extérieur, on va dire. Mais je pense qu'ils font aussi des généralités parce que les choses changent quand même beaucoup, je trouve, en ce moment, de nos jours. Et c'est quand même beaucoup plus ouvert, mais... Ouais, on trouvera plus facilement des gens qui parlent anglais en Allemagne, dans les pays nordiques, etc., qu'en France, parce qu'en France, le français, on y tient au français, et je pense que les gens, ils ont un petit peu, des fois, ils souffrent pas trop, et c'est la vision qu'on laisse un petit peu à l'étranger. Mais d'un autre côté, on a aussi, il y a tout, hein, mais on entend aussi que c'est un pays où voilà, c'est l'amour, c'est la beauté des monuments.
La gastronomie.
La gastronomie, ça c'est vraiment, que ce soit à Paris, dans le sud, même en Alsace, hein, la choucroute, j'en entends en Amérique du Sud, en Australie, j'entends parler de choucroute, moi je suis fier, incroyable. Mais il y a de tout, mais comme on en entend dans tous les pays. Mais je pense qu'au final, les Français, on est quand même vus comme des personnalités assez strong, assez fortes, qui savent ce qu'ils veulent et qui sont des gens assez quand même déterminés. Et quand on regarde dans les équipes de course aujourd'hui, il y a un peu des Français quand même partout. Et ça montre bien que le Français est utile dans la compétition et dans tout ce qui est côté rigueur, et que c'est quelqu'un de fort, quoi.
Petite question d'actualité. Au début de l'été, en France, on a assisté à des émeutes un peu partout dans le pays. Comment vous voyez ça? Quelle est votre lecture de jeunes sportifs de très haut niveau? C'est quoi? C'est un doute, une incompréhension? C'est des mains qui ne sont pas tendues? C'est un système scolaire qui n'y répond pas à l'attente, justement, d'une jeunesse qui, dans notre pays, souhaite autre chose? Votre lecture à vous?
Moi, je pense qu'il y a un peu d'injustice, encore une fois, comme on en parlait au début. C'est un sujet un peu compliqué, pour être honnête, mais si je dois résumer, c'est un peu d'injustice et peut-être des doutes aussi, dans le sens où, en termes d'information et de communication des problèmes, il y a un peu de tout, on va dire, et après, on peut entendre ce qu'on veut. Et je pense que c'est un peu trop facile aujourd'hui. Le problème est peut-être aussi qu'avec les réseaux sociaux, ça brouille un petit peu, toutes les sources d'infos. On en voit de partout. On peut, en 10 minutes, on peut changer d'avis 15 fois sur des situations. Et l'opinion, elle est complètement divergente dans tous les sens. Donc, je pense que ça perd un peu des gens. Mais je pense qu'il y a un peu d'injustice aussi, dans le sens où il y a pas vraiment de vérité, mais c'est compliqué de... Ouais, il y a des choses qui prennent des proportions énormes qui ne devraient pas. Il y a des choses sur lesquelles on n'entend pas parler. Et je pense que tous les cas ne sont pas traités au même niveau. Et malheureusement, ça crée un peu de frustration auprès de tout le monde. Et cette frustration, on la ressent clairement un peu à tous les niveaux, quoi.
Ça, quand vous êtes à l'étranger, que vous revenez en France, c'est quelque chose que vous sentez dans les contacts que vous avez au quotidien?
Ouais, c'est tendu. Voilà, c'est pas libéré, quoi. C'est toujours tendu.
Vous avez l'exemple d'un pays qui est libéré?
Alors ça, il y a pas. De toute façon, des problèmes, il y en a partout. Hein.
Bien sûr.
Il y a pas d'idéal. Hein. On peut dire que des fois, on peut dire en France, c'est pas bien, mais au final, si on regarde un peu ailleurs, et pour le coup, pour avoir voyagé beaucoup, il y a quand même pas mal d'endroits où on est très bien en France. Hein. Après, je pourrais pas dire un pays où il y a vraiment la paix, où tout se passe comme prévu. Hein.
Vous avez à l'instant parlé des réseaux sociaux. Comment est-ce que vous les gérez? Comment est-ce que, au quotidien, vous avez quelqu'un qui les fait pour vous? Est-ce que vous avez une ligne édito? Est-ce que c'est votre équipe qui dirige un petit peu les choses? D'ailleurs, est-ce que les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent peuvent vous joindre directement? Sur quels réseaux sociaux? Est-ce que vous répondez à vos supporters, à vos followers?
Alors déjà, par rapport aux réseaux sociaux, j'y passe beaucoup trop de temps. Ça, j'aimerais y passer un peu moins de temps.
Vous faites partie un peu de cette génération qui a grandi avec.
Ça, c'est sûr. Et sans mon téléphone, je suis perdu, mais je ne devrais pas. Mais pourtant, je me force tous les jours. Je me dis, allez, aujourd'hui, je fais gaffe. Et 3 minutes après, je suis sur mon téléphone. Et ça, c'est un peu le problème. Et bon, après, par rapport aux réseaux sociaux, effectivement, moi, je réponds à absolument tout le monde, sur tous mes réseaux. Il n'y a personne aujourd'hui. Ou alors vraiment, c'est un mauvais concours de circonstances qui peut dire que je n'ai pas répondu à un message.
Même quand il est négatif et voire agressif.
Je réponds à tout. Alors vraiment, si c'est quelque chose, je veux pas non plus perdre du temps et me ruiner le moral pour des choses inutiles. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé dans ma carrière qu'il y ait des choses très négatives. Et là, il vaut mieux couper les réseaux sociaux et pas regarder. Parce que écrire derrière un téléphone, c'est toujours facile, mais on se rend pas compte de tout et des fois de l'impact des mots qu'on peut utiliser. Donc je préfère ne pas regarder. Mais en général, vraiment... quasiment 100% des messages je réponds, je gère tout moi-même, mes réseaux sociaux, on a effectivement une petite ligne éditoriale dans le sens où on a un peu des choses à respecter, on n'a forcément pas le droit de poster des photos de cigarettes, d'alcool, on n'a pas le droit de poster des photos en train de rouler, Tout ce qui pourrait être illégal, c'est complètement interdit, ce qui est complètement normal. Mais
ce qui compte pour vous compte pour nous tous.
Ça compte pour tout le monde, exactement. Mais il faut être super vigilant dans le sens où on est quand même ambassadeur d'une marque. Et les gens, ils nous lient à la marque. Donc, si on donne une mauvaise image, ça peut transformer un potentiel client en un client d'une marque adverse. Donc, il faut faire très attention à l'image qu'on évoque. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, t'es pilote, du coup, sur la route, tu roules super vite. » Non, sur la route, je roule comme tout le monde, à la limitation, je respecte tout. Et c'est pas frustrant dans le sens où on roule assez vite tous les week-ends pour que sur la route, je puisse rouler calmement. J'ai besoin de mon permis de conduire parce que je me déplace beaucoup. J'ai une voiture de fonction de la marque pour laquelle je roule en compétition que je représente. Donc, ça serait complètement inadmissible si je commençais à avoir des comportements complètement délirants sur la route.
Donc, vous interagissez beaucoup avec toutes celles et tous ceux qui vous écrivent.
Complètement. Complètement. Il y a quand même beaucoup de gens passionnés et ça fait vraiment plaisir. Alors, avant, c'était des gens de mon âge. Aujourd'hui, vu que j'ai un peu vieilli, on va dire, c'est des jeunes générations qui s'intéressent au sport auto. Et ça fait plaisir à voir parce qu'on se rend compte que c'est des gens passionnés qui n'ont pas forcément accès au pilotage, etc. Mais ça fait plaisir de pouvoir partager des choses avec eux, de pouvoir les rencontrer sur les circuits, de voir que, ouais, ils s'intéressent, ils connaissent des choses, ils suivent. Et ça crée un peu... c'est sympa de voir, même à l'échelle alsacienne, qu'il y a des gens qui s'intéressent au championnat, à la course de voiture. Et quand on fait la course, les 500 nocturnes, la durée tous les ans, quand on voit le nombre de gens qui viennent et qui s'intéressent, qui voient les voitures et tout, c'est super intéressant.
L'Anneau du Rhin, c'est un circuit privé qui est juste au nord de Mulhouse et sur lequel, effectivement, vous faites les 500 tous les ans. Et c'est un peu un moment de retrouvailles aussi avec votre public local. Et c'est important pour vous. À part signer les autographes, ça, c'est un peu... Le sport de tout grand champion, vous prenez du temps avec vos supporters. Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent de vous, que vous expliquiez, que vous décodiez, que vous soyez simplement un homme simple de contact et d'échange?
Ouais, juste un mec qui est là, accessible et qui répond aux questions de gens passionnés pour avoir une discussion entre passionnés, parce qu'au final, moi, je suis passionné d'automobile, ils le sont aussi. J'ai le privilège de pouvoir rouler des voitures de course depuis quelques années maintenant, donc j'ai intérêt de pouvoir partager ça avec les gens qui viennent sur les circuits et qui aiment ça. Donc c'est pour ça que effectivement cette course, elle me tient vraiment à cœur à l'Anneau du Rhin. C'est mon circuit maison. On fait des courses à travers le monde, mais on n'a pas forcément l'occasion de faire des courses devant ses
amis, public.
Son public, les gens qui nous suivent à travers la télé et qui peuvent nous voir en vrai rouler. Donc non, c'est un honneur de pouvoir rouler sur cette course. Ouais.
Et alors pour finir, on va être sur une touche un petit peu plus personnelle, parce que là aussi pour vos supporters et celles et ceux qui vous suivent, il paraît que vous êtes un fanat de jeux vidéo.
Alors c'est vrai que c'est surtout depuis le confinement. Depuis le confinement, j'ai passé quelques temps sur les jeux vidéo. C'était aussi un moyen pour moi. Alors il y a deux choses. Jeux vidéo, j'ai pas fait. Je suis pas un pro de jeux vidéo. Je les utilise beaucoup pour ma préparation parce que j'ai un simulateur à la maison que j'utilise souvent pour préparer les courses, pour reconnaître les circuits.
Mais vos jeux, c'est des jeux de course automobile?
Alors il y a les deux. Alors il y a les jeux de course automobile.
Ouais, ceux-là, on va les oublier.
Ouais, ceux-là, okay, on n'en parle pas. Et après, il y a un peu les jeux, comme tous les jeunes, ils jouent aux jeux de guerre, les Call of Duty, tout ça. Effectivement, pendant le Covid, c'était le seul moyen. On était testé au Covid tout le temps, après le confinement, avant d'aller sur tous les week-ends. Donc, je me suis isolé chez moi pendant un an et demi où je voyais personne. Et c'était mon seul moyen d'avoir un peu de connexion avec mes potes. Donc, effectivement, le soir ou l'après-midi, on se rejoignait sur Call of et on faisait des parties. Et ça durait des fois plusieurs heures. Alors, je priorisais toujours le vélo. J'allais faire ma sortie vélo, mon sport. Et après, je passais un peu beaucoup de temps quand même sur les jeux de guerre. Ouais.
Alors, on a parlé choucroute, on va parler gastronomie. Il paraît que vous êtes un fanat et un amoureux des pâtes.
Alors, je mange beaucoup de pâtes parce que pour le sport, effectivement, il me faut...
beaucoup de sportifs de haut niveau.
C'est la base numéro un, les pâtes. À un moment, elle fait des très, très bonnes carbonara. Donc, ça, c'est...
Vous êtes déjà mon deuxième invité. Adorer les carbonara.
C'est vrai. Ouais. Ah, je pense que ça doit être un peu un classique, mais j'aime ça. C'est simple, c'est efficace. Et le lendemain, quand on va faire une sortie vélo, on est sûr de ne pas avoir une fringale. Ça, là, on est calé, on peut faire une grosse sortie sans problème.
Question musique, j'ai interrogé votre entourage. Visiblement, vous avez des goûts assez éclectiques. Mais s'il y a un titre du moment qui vous passait par la tête là, à l'instant où on se parle, c'est lequel?
S'il y a un titre qui me passe. Alors, j'écoute beaucoup de musique. J'ai un gros problème pour retenir le nom des chansons. Alors, si vraiment.
On est deux.
C'est vrai, ouais, parce que aussi. C'est compliqué. Bon, alors, ouais. Je les entends, je sais les chanter, mais dire le titre ou qui la chante, des fois, compliqué.
Alors, je vais vous poser la question autrement. Est-ce que avant une course, la musique, par exemple, vous aide à vous concentrer ou vous aide à descendre votre tempo cardiaque? Et à ce moment-là, vous êtes plus classique, plus moderne? Vous avez une typologie de musique particulière?
Ouais, plus des chansons un peu dynamiques. J'écoute pas mal de chansons un peu style reggaeton ou du rap. Je suis vraiment ouvert dans ma playlist. Quand je mets mes chansons moi-même, je peux tomber sur une chanson de rap, une chanson de reggaeton, une chanson française. Vraiment, c'est super, super éclectique. Après, avant une course, j'écoute un peu de musique vraiment au moment où je commence à me changer pour rentrer dans ma zone et dans ma bulle. Parce que ça m'aide un peu à me couper des bruits extérieurs et là je me retrouve, je me concentre, c'est mon rituel, j'ai beaucoup de TOC et j'ai un gros rituel avant de monter dans la voiture, donc ça fait partie de mon rituel d'écouter un peu de musique au moment de me changer, et c'est au moment où je décide aussi, ou quand je mets ma musique et que je commence à me changer, que voilà, là je pars en mission et c'est, ça devient sérieux quoi.
Yann, merci pour cet entretien. Vous souhaitez surtout une belle fin de saison parce qu'elle a très bien commencé et à titre mondial, ramené à la maison. Je crois qu'on en serait toutes et tous très fiers. Merci d'avoir parlé aussi d'autre chose que de sport automobile, de vous être prêté à cet exercice un peu particulier, de vous être livré vous-même. Et je crois qu'en tout cas, je mettrai sur mon site et sur... les éléments du podcast aussi, l'ensemble des coordonnées pour pouvoir vous joindre sur vos réseaux sociaux et que celles et ceux qui auront apprécié cet entretien puissent rentrer en contact direct avec vous. Merci beaucoup, belle route à vous et bonne chance.
Merci beaucoup Jean.
À très bientôt. Cet épisode vous a plu, merci beaucoup. N'hésitez donc pas à le partager, à en parler autour de vous. Merci également de noter 5 étoiles. Vous pouvez réagir directement également sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou Facebook et sur mon site internet jeanrotner.com. À très bientôt.